nouvelle heure, comme on vous l'avait promis, hein, avec notre invité ce matin, c'est Guillaume Guenec, chargé de plaidoyer et responsable communication chez l'ONG Portes Ouvertes au service des chrétiens persécutés.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
On est heureux de vous recevoir ce matin. On va parler de persécution des chrétiens. Alors, c'est un sujet qui peut être touchy. Non, restez bien ici, vous allez voir. Vous allez apprendre énormément de choses concernant cette ONG, ses actions. Et on rappelle que Guillaume, vous êtes notre invité aussi dans le cadre de ce film qui est sorti la semaine dernière, Le Prix de la Vérité, un film qui parle de persécution notamment en Inde, donc on va parler de la persécution des chrétiens de façon générale dans le monde, mais aussi en Inde.
6h-10h, Positive Morning avec Innocent et Nathanaël.
Et c'est Guillaume Guenec, on l'a présenté un peu plus tôt, on le redit, chargé de plaidoyer et responsable communication chez l'ONG Portes Ouvertes au service de chrétiens persécutés. Bon, vous l'avez remarqué depuis la semaine dernière avec ce film, ce magnifique film, donc Le Prix de la Vérité, à voir absolument en salle, sachant que c'est disponible dans 105 salles, 106 maintenant, ils ont rajouté une salle en plus en France.
Ouais, donc, ouais, il faut aller le voir.
Voilà, près de chez vous, renseignez-vous, et sur Phare FM, on vous fait également profiter des billets, ça se passe sur pharefm.com/cinéma. Alors Guillaume, on va commencer tout de suite, on va rentrer droit dans le sujet, déjà apprendre à vous connaître, et puis nous parler surtout de l'ONG Portes Ouvertes, c'est découvrir les actions. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui disent, oh bah tiens, intéressant, mais qu'est-ce que c'est?
Faut ouvrir le micro, on sort comme ça, il pourra mieux parler, Guillaume.
Très bien, donc l'ONG Portes Ouvertes, on est une mission chrétienne d'origine protestante, mais on aide et on parle de tous les chrétiens qui sont persécutés. Et donc notre mission, c'est de soutenir et de fortifier les chrétiens dans les pays où ils sont le plus persécutés. Donc on apporte un soutien spirituel, on apporte des bibles, on fait des formations pour les prêtres, les pasteurs, et on apporte aussi un soutien humanitaire, des projets de développement socio-économique, des cours d'alphabétisation, des hôpitaux de brousse, des écoles. On essaye à chaque fois dans chaque pays de voir comment les chrétiens sont persécutés et comment dans ce contexte on peut les aider à tenir ferme dans leur foi et à vivre selon leurs convictions malgré tous les bâtons qu'ils ont dans les roues.
Donc j'imagine un soutien à distance mais aussi sur place, vous vous rendez parfois sur place,
Oui, en fait on a des équipes locales dans près de 70 pays où les chrétiens sont persécutés. Et évidemment, nous, on va se rendre sur place pour vérifier que les projets sont bien mis en place. C'est les projets qui sont faits en collaboration avec l'Église locale.
D'accord, donc une équipe de combien de personnes sur la France ou dans le monde?
Alors en France, on est une vingtaine de personnes à temps plein.
Okay.
Dans le monde, on a des centaines de personnes qui sont soit employées, soit bénévoles pour la mission, avec des réseaux dans... dans les pays où les chrétiens sont persécutés, des réseaux qui sont dans certains pays des réseaux secrets, étant donné que la persécution peut venir de l'État et donc il faut que les chrétiens soient discrets dans les pays où ils sont le plus persécutés.
Mais alors c'est vous qui allez voir comment les chrétiens sont persécutés ou c'est ces chrétiens-là qui vont se manifester pour le soutien après derrière?
On a les deux cas. En fait, on est implanté depuis 1955, donc on a des réseaux qui sont bien établis dans un paquet de pays. Mais on a l'occasion, nous les équipiers, de se rendre sur place pour écouter de vive voix ce qu'ils nous disent de la persécution, parce qu'on a les chiffres, on a les histoires qui nous remontent, mais rien ne vaut que de rencontrer les personnes et d'écouter ce qu'elles ont à dire. Et on a aussi des fois l'occasion de faire venir des témoins de la persécution de leur pays qui viennent en France, par exemple pour notre week-end annuel ou d'autres occasions, pour qu'ils puissent témoigner aux chrétiens de France et à tous ceux qui sont intéressés par la question de la liberté religieuse, de ce qu'ils vivent dans leur pays.
Et on va parler particulièrement de ce qui se passe avec cet index de persécution que vous publiez chaque année. On va revenir dessus, sur la définition de la persécution aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être persécuté finalement? Est-ce que moi je te persécute finalement, innocent?
Me sens persécuté là tout de suite.
On va en parler et particulièrement de la situation en Inde. À la lumière du film Le Prix de la Vérité, une pépite qu'il faut aller voir au cinéma. Vous avez toutes les informations sur pharefm.com/cinéma. Notre invité Guillaume Guenec, il est chargé de plaidoyer mais aussi responsable de communication à l'ONG Portes Ouvertes. On a parlé de l'ONG rapidement, de savoir un petit peu ce que vous faisiez, et on parlait d'un index de persécution. Avant de revenir sur cet index de persécution, peut-être est-ce qu'on peut donner la définition de persécution ou comment vous définissez la persécution dans cet index?
Oui, alors c'est très important, c'est comme ça, on est tous d'accord de quoi on va parler. Alors moi, je suis chargé de plaidoyer à la base, donc je vais voir les hommes politiques pour leur parler de la persécution des chrétiens. Donc j'ai une approche un peu droit de l'homme. On prend la liberté religieuse à 100%. tel que défini dans la Déclaration des droits de l'homme.
D'accord.
Vous avez le droit de partager votre foi. Mmh. Vous avez le droit de changer de religion comme vous voulez. Mmh. De vous convertir, d'avoir aucune religion. Vous avez le droit de manifester votre religion en privé comme en public. D'aller à l'église. D'aller dans vos lieux de culte selon votre religion. Vous prenez tout ça, et dès qu'il y a des violations de cette liberté religieuse, vous entrez dans quelque chose qui relève petit à petit de la persécution. Nous, à Portes Ouvertes, on prend en compte deux aspects de la persécution. Il y a ce qu'on appelle la persécution marteau. Mmh. Là, c'est tout ce qui est violence. Les gens qui vont être passés à tabac à cause de leur foi, qui vont être tués parfois, les églises qui vont être brûlées, les gens qui sont kidnappés, violés, tout ça, à chaque fois, on prend que les cas où c'est en raison de la foi, de l'identification à la foi chrétienne de la personne. Mmh. Et ensuite, il y a la persécution étau. Et comme ça l'indique, c'est tout ce qui est la pression dans la vie quotidienne qui prend plusieurs formes. Le rejet de la famille, perte de la garde des enfants, pas le droit d'avoir une Bible sur soi, pas le droit d'avoir accès à l'eau du village, pas le droit d'avoir accès à une éducation qui n'enseigne pas une autre religion. Mmh. Et ça prend tout un système qui, dans la vie quotidienne, va vous rappeler, il va essayer de vous dire que vous êtes inférieur, que vous êtes moins bien, que vous êtes un sous-citoyen. Et tout ça, c'est aussi une forme de persécution qui parfois fait même plus de dégâts sur le long terme que la persécution violente. Mmh. Et donc, on prend en compte ces deux aspects.
Pour l'index,
voilà.
Alors, si on revient sur cet index, alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les pays où la persécution des chrétiens est vraiment très importante ? Le top 3 ou top 5, je ne sais pas.
Alors, dans les pays les plus extrêmes, il y a la Corée du Nord, il y a l'Afghanistan, le Soudan, l'Iran, le Yémen, la Somalie. Alors, il y a des pays où c'est des États faillis. Il y a quasiment plus d'États en place. Mmh. C'est des groupes terroristes qui vont s'en prendre aux chrétiens. Parfois, il y a des guerres civiles comme au Yémen ou en Libye aussi. Où là, c'est une situation très compliquée. Il y a des pays où la persécution, elle vient de l'État. Mmh. Là, l'exemple type, c'est la Corée du Nord. En Corée du Nord, vous devez adorer la dynastie des Kim. Mmh. Le fait même de croire en Dieu fait de vous un traître au régime.
Wow.
Donc, quelqu'un qui croit en Dieu... Et donc, il s'est même stipulé dans la loi, hein. Le fait d'être chrétien ou d'avoir une Bible, c'est un crime grave qui entraîne des punitions sévères. Punitions sévères, c'est camp de prisonniers politiques où vous allez probablement trouver la mort. Mmh. Donc, les églises en Corée du Nord sont entièrement souterraines. Vous pouvez dire à personne, et parfois, ils ne le disent pas à leurs propres enfants, sous peur d'être dénoncé, vous pouvez dire à personne que vous êtes chrétien. Donc, et malgré ça, l'église grandit en Corée du Nord. Mais il y a une persécution qui peut venir de l'État et une persécution qui peut venir de groupes terroristes et il y a la persécution qui vient de l'entourage, la famille qui n'accepte pas la conversion quand elle fait partie d'une autre religion. Et ça, c'est aussi des phénomènes qu'on peut voir dans beaucoup de pays.
Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à 0652 300 342. On va revenir dans un instant par rapport à cet index de persécution sur quelques détails, mais aussi où se trouve l'Inde, pays qui est mis en avant dans ce film, Le Prix de la Vérité.
6h-10h, Positive Morning, avec Innocent et Nathanaël.
Notre invité, hein, Guillaume Guénec, qui fait partie de l'ONG Portes Ouvertes. On parle de l'Inde particulièrement avec ce film, hein, Le Prix de la Vérité. Alors, Guillaume, où se trouve l'Inde dans cet index de persécution ? Est-ce que c'est plutôt... ils sont gentils avec les chrétiens ou c'est plutôt le contraire ? C'est très compliqué d'être chrétien dans ce pays.
Bien, alors notre index, il fait le classement des pays selon le degré de persécution auquel sont confrontés les chrétiens. Dans ce classement, l'Inde, cette année, est 11e. Ah oui. Donc c'est le 11e pire pays pour les chrétiens dans le monde.
On pourrait dire que ce n'est pas le premier, donc du coup ça va quand même.
On a 76 pays où il y a des problèmes de persécution religieuse pour les chrétiens. Être 11e sur 76, ce n'est pas un bon classement.
D'accord.
Il fait partie des pays à persécution extrême. Mmh. Les pays à persécution extrême, c'est soit être chrétien, vous êtes persécuté, c'est immanquable.
D'accord.
Ou, et là c'est le cas de l'Inde, mais c'est le cas aussi du Nigeria par exemple, c'est des niveaux de violence qui atteignent des sommets à tel point qu'on considère que la persécution est extrême. Mmh. C'est une violence qui est concentrée dans certains États. C'est un État fédéral, c'est une fédération l'Inde, donc il y a différents États. Dans certains États, les niveaux de violence est juste monumental.
Vous avez certainement vu le film, hein, Le Prix de la Vérité. Et puis dans ce film, on voit quand même Graham Stearns, justement, qui est quand même brûlé vif avec ses deux enfants. C'est d'une extrême violence.
Oui, en fait, on a vu cette violence augmenter dans les années 90. En fait, il y a une... Alors, il faut comprendre qu'il y a une idéologie derrière qui s'appelle l'Hindutva.
Okay.
L'hindutva, c'est l'idée que être indien, c'est être hindou, pour faire très court. Et donc que les religions qui ne sont pas nées en Inde, le christianisme et l'islam essentiellement, vont détruire la culture et l'unité indienne, et il faut s'en débarrasser. Et ça a gagné petit à petit du terrain, et ça a pris la forme d'actions extrêmement violentes dans les années 90. C'est comme ça que les idées sont passées. Il y a eu des destructions de mosquées, des attaques à la bombe, et il y a eu ce meurtre qui a énormément marqué, énormément choqué, parce qu'on parle vraiment quelque chose d'extrêmement tragique et dramatique, et des conditions vraiment atroces. De ce missionnaire Graham Staines qui s'occupait d'une léproserie, qui essayait de faire du bien autour de lui et qui a été brûlé vif avec ses deux enfants par des extrémistes hindous.
Alors ça, c'était il y a quelques années, on reviendra sur l'histoire tout à l'heure. Aujourd'hui, ce type de persécution comme l'a vécu Graham Staines, c'est encore le cas? Il y a d'autres types de violences sur la personne?
C'est toujours le cas, et c'est les chrétiens indiens qui sont touchés. Et ça prend vraiment des formes très violentes, souvent des émeutes dans les zones rurales. Les gens se rassemblent avec des bâtons, ils vont interrompre la cérémonie dans la petite église du village, les passer à tabac, essayer de les faire revenir à l'hindouisme si c'est des gens qui se sont convertis au christianisme. Et j'ai rencontré, moi je suis allé en Inde pour rencontrer les chrétiens persécutés. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté son histoire. Il était hindou. Il s'est converti au christianisme suite à une guérison miraculeuse de sa jambe. Il a caché sa foi dans un premier temps pour pas avoir de soucis. Puis un jour, sa famille a su à propos de sa foi. Oh. Sa famille au sens large, ses parents, ses frères et sœurs. Ils ont tous débarqué avec le reste du village, avec des bâtons. Et ils ont foutu le feu à sa maison.
Wow.
Et il se retrouve sans maison, obligé de fuir dans un autre coin de l'Inde, chez sa belle famille qui accepte leur nouvelle foi. Plus, au-delà de la violence de ce qui s'est passé, vous vous rendez compte, c'est votre propre famille qui fait ça. Donc voilà, c'est des histoires comme ça, on en a presque tous les jours, toutes les semaines en tout cas.
Et on reviendra sur ces histoires, on va revenir sur les détails aussi, de voir que fait l'État, le gouvernement, suite à cause de ces persécutions, est-ce qu'il agit ou pas? Vos questions, vos réactions aussi au 0 652 300 342 par SMS ou via WhatsApp.
Je ne sais pas pour toi, Nathanaël, mais j'ai froid dans le dos.
Entendre tout
ce que j'entends là ce matin.
Ouais. Et c'est pour ça que on doit donner le micro à ceux qui savent, et pour que on soit tous au même niveau d'information de ce qui peut se passer dans certains pays, et notamment en Inde. Et Guillaume, on parlait de l'Inde, on parlait aussi, vous nous partagez cette histoire donc de ce chrétien en Inde qui a eu vu sa maison brûlée par sa propre famille avec le voisinage aussi, le reste du village. Mais que fait l'État, que fait le gouvernement là-dedans? Doit rétablir la sécurité normalement.
Alors là, il y a deux aspects. D'abord, encore une fois, j'ai mon côté chargé de plaidoyer. Il y a la constitution. La constitution en Inde défend la liberté religieuse. L'Inde est une démocratie. Chacun peut avoir sa religion. Ensuite, il y a cette idéologie dont je vous ai parlé, de l'hindutva, l'Inde aux hindous. Il y a énormément de milices en Inde. Le RSS, c'est la plus connue, qui font des actions choc et qui essaient de promouvoir cette idée que l'Inde s'est réservée uniquement aux hindous, et à la limite les bouddhistes et les jaïnistes et les sikhs qui sont aussi nés dans l'Inde sont tolérés. Il y a ce parti politique qui est arrivé au pouvoir en 2014, le BJP. C'est considéré comme l'aile politique, si vous voulez, de cette mouvance de l'hindutva. Un parti de droite nationaliste dure qui a donné l'impression aux extrémistes hindous qui a maintenant un climat de permissivité, d'impunité, et que d'une certaine manière, le gouvernement est de leur côté.
Oh là là.
Et à partir de 2014, on voit une explosion des violences contre les chrétiens et contre les musulmans. Il y avait déjà des problèmes avant, mais il y a vraiment, on voit qu'on est entré dans une autre dimension où les gens savent qu'ils peuvent débarquer avec des bâtons, frapper les chrétiens, interrompre les cérémonies religieuses, et qu'ils vont s'en sortir. Ils vont même le publier sur les réseaux sociaux. Ça devient une fierté, parce qu'ils montrent qu'ils défendent l'Inde, qu'ils défendent l'hindouisme, et c'est quelque chose qui est même utilisé pour mettre la pression aux forces de l'ordre, qui doivent se positionner sur cette question. Est-ce qu'elles défendent la nation hindoue, ou est-ce qu'elles restent fidèles à la Constitution? Donc c'est compliqué, et il y a quelque chose qui est en train d'arriver de plus en plus, et là on est en plein dans le sujet du film, oui. C'est les lois anti-conversion. Il y a la liberté religieuse, mais dans certains États, 11 actuellement, il y a des lois qui limitent les conversions, qui interdisent officiellement les conversions forcées. Sauf que c'est défini dans des termes très flous, ce qui est une conversion forcée, conversion par des moyens frauduleux, et du coup, ils peuvent interpréter que si une mission chrétienne nourrit les pauvres, et qu'un des pauvres en question se convertit au christianisme suite à ça, ça a été une corruption, et ils l'ont en quelque sorte acheté pour le faire venir à la foi chrétienne.
Ah, oui.
Donc, beaucoup de missions d'ONG chrétiennes qui font des œuvres humanitaires sont sur la tangente avec ces lois anti-conversion. Et certaines sont même, dans certains États, ça dépend des États, sont même de manière officielle discriminatoires, parce qu'elles disent, si un hindou se convertit au christianisme, là, il faut enquêter si ce n'est pas une conversion forcée. Si un chrétien se convertit à l'hindouisme,
il n'y a pas de problème.
C'est un retour à la maison.
Ah, oui.
Garwaxi, c'est comme ça qu'il s'appelle ça. Retour à la maison, et à ce moment, ça n'entre pas dans cette loi anti-conversion.
Eh ben dis donc, merci en tout cas pour cet éclairage, ça nous permet de comprendre énormément de choses et peut-être quand vous irez voir ce film Le Prix de la Vérité, vous comprendrez peut-être d'autres, des aspects particuliers de l'Inde et de ce qu'a pu vivre Graham Staines. C'est une histoire vraie, on vous le rappelle, qui est au cinéma actuellement. Pour avoir les séances, sans savoir plus sur ce film, vous allez sur farfm.com/cinéma.
Je n'ose même pas imaginer, parce que parfois Nathanaël, on est là avec nos projets pour acheter un véhicule, pour acheter une maison. Et finalement, tu as ta maison, ta petite famille, tes deux enfants, et du jour au lendemain, les gens se pointent chez vous et brûlent tout.
Ouais.
Ça doit être vraiment, je sais pas.
Je pense que la lumière de ce que l'on entend, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, qui sont peut-être chrétiens, se dire mais waouh, on a de la chance là où on se trouve.
C'est ça.
Et c'est bien de toujours de ne pas que dire ça, mais après de voir comment on peut aussi agir pour ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde. On en parlera d'ici la fin de cette émission avec notre invité, donc restez bien à l'écoute jusqu'à 10h, de belles choses aussi pour vous, pour mieux comprendre les chrétiens persécutés dans le monde et comment chacune et chacun on peut agir personnellement. On a vu pas mal de choses, hein, de ce qui se passe dans ce pays, de comment le gouvernement intervient ou n'intervient pas dans ces situations, mais je pense qu'on peut aller même un peu plus loin. Vous nous disiez hors antenne qu'il y avait une déclaration qui a été faite, je crois en 2014, c'est ça, qui se projetait en disant il y aura plus de chrétiens et de musulmans. Vous pouvez peut-être nous préciser tout cela.
C'est une déclaration qui a été faite par un des responsables du RSS, qui est la plus grosse milice hindouiste, et qui est passée à la télévision publique. Vous pouvez vous mettre dans la tête d'un chrétien ou d'un musulman en Inde à ce moment-là. La personne déclare, 31 décembre 2021, c'est le dernier jour pour les chrétiens et les musulmans en Inde. Ils devront soit se convertir, soit partir. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont échoué dans leur programme. Il y a toujours des chrétiens, des musulmans en Inde. Et nous, on s'occupe des chrétiens, on voit les chrétiens qui restent fermes dans leur foi et qui décident de continuer à aimer leur prochain, continuer à vivre leur foi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça voulait dire qu'il y a quand même cette idée, elle est présente sur les réseaux sociaux, elle est présente à la télévision, cette idée qu'ils sont des citoyens de seconde classe, les chrétiens et les musulmans, et qu'il faut s'en débarrasser.
Mais quand on va en Inde, on ne voit pas cette persécution, on peut aller dans des églises. Est-ce que ce n'est pas peut-être mettre en lumière, au microscope, des actions qui sont vraiment localisées? Est-ce que ce n'est pas en faire trop, peut-être de mettre en avant peut-être deux fois une intervention ou une persécution à un endroit en Inde? J'exagère beaucoup là.
Alors, non, bah, c'est une très bonne question. Très souvent, on va se rendre dans des pays qui sont dans l'index de persécution chrétien. On ne va pas voir la persécution parce que déjà, nous-mêmes, on est étrangers. En général, on va aller dans les grandes villes, dans les zones touristiques qui ne sont pas les endroits où il y a de la persécution. En Inde, elle est cantonnée dans certains états, surtout les états centraux, où il y a une plus forte, un hindouisme plus radical et où les chrétiens sont encore plus minoritaires. Donc, c'est dans les états où ils sont le plus minoritaires qu'ils sont le plus persécutés.
D'accord.
Et c'est souvent justement des choses qui se font à l'échelle du village. Donc c'est pas quelque chose qui va se passer dans les grandes villes. Et c'est pas quelque chose qui va toucher autant les communautés chrétiennes qui sont historiques, qui sont implantées depuis, certaines c'est 2000 ans, hein. On dit que c'est saint Thomas qui a annoncé l'évangile en Inde. Mais c'est, par contre, si un hindou se convertit au christianisme, là, le cas de la personne dont je vous ai parlé, quelqu'un a prié pour sa jambe a été guérie, il a décidé de se convertir. À ce moment-là, l'opposition qu'il y a de la famille, du village, elle est très très intense. Donc c'est un problème actuel. Évidemment, on parle d'un pays de 1,3 milliard ouais. 3 ou 4 milliards d'habitants. On dénombre, on a plus de 10 000 agressions de chrétiens l'année dernière.
Wow.
Alors vous allez dire 10 000 sur 1,4 milliard,
c'est pas beaucoup,
ouais. C'est pas beaucoup. Mais 10 000, c'est quand même 10 000 chrétiens, 10 000 personnes qui sont agressées. 17 chrétiens ont été tués l'année dernière. Donc on voit que le phénomène continue, et on a parlé des lois anti-conversion. Il y a de plus en plus d'États qui adoptent ces lois. 2022, je crois que c'est le Karnataka, 2021 l'Uttar Pradesh. Donc on voit que cette logique de restreindre la liberté religieuse, elle est présente et elle va augmentant.
On a parlé pas mal de choses. Qu'est-ce que vous faites concrètement en Inde pour ces chrétiens qui sont persécutés? Quelles sont vos actions? Alors, vous pouvez peut-être pas tout dire, mais en tout cas de celles que vous pouvez partager.
Voilà, donc on a des équipes locales qui essayent d'aider les chrétiens persécutés, de soutenir ceux qui passent par des temps très difficiles. Par exemple, voilà cette famille dont j'ai parlé, dont la maison a été brûlée. Je vais vous partager deux types d'aide. Le premier, c'est l'aide juridique. On apprend aux chrétiens à connaître leurs droits et à être capables de se défendre eux-mêmes. C'est très souvent ce qui se passe. Par exemple, ils vont attaquer un pasteur, le battre à coups de bâton. Le pasteur va au commissariat pour porter plainte. Ses assaillants l'ont précédé. Et ils ont dit, oui, mais ce pasteur faisait des conversions forcées. Le pasteur arrive au commissariat. De victime, il passe à accusé. Et il doit répondre de ça. Donc, on leur enseigne. Et du coup, on a des bonnes histoires comme ça. Je crois que c'était un pasteur, pas le même, qui s'est retrouvé au commissariat, accusé de conversion forcée. Il a dit, mais non. Il a cité les articles de la Constitution, les articles de droit. Et au final, le commissaire l'a laissé partir. Parce qu'il dit, effectivement, monsieur, vous avez raison. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui porte du fruit. On veut que les chrétiens soient autonomes, ils soient capables de se défendre eux-mêmes. Donc ça, c'est un premier projet. Le deuxième, c'est on va aider ceux qui sont victimes de violences. On va être à leur côté. On a le cas, et c'est une belle histoire, quelqu'un qui, un hindou qui s'est converti au christianisme, il a commencé à organiser des réunions de prière chez lui. Les voisins l'ont su, ils ont débarqué avec des bâtons, ils l'ont passé à tabac. Nos partenaires locaux ont décidé de l'aider à trouver un nouveau travail parce qu'il était dans la police avant. Suite à sa conversion, il a été plus ou moins poussé dehors.
Donc, c'est fou ça.
On lui a fourni une formation professionnelle et un moyen de trouver un nouveau travail. Et sa petite fille, qui était traumatisée par ce qui s'est passé, on l'a placée dans une école tenue par une mission chrétienne.
Okay.
J'ai rencontré cette petite fille quand je suis allé en Inde, et on lui a demandé ce qu'elle voulait faire plus tard. Vous imaginez qu'on demande ça un peu avec hésitation, parce qu'on se dit, ouais, elle a été traumatisée parce qu'elle a vécu. Ce qu'elle m'a dit, c'est « Je veux devenir avocate pour défendre les chrétiens qui sont persécutés dans mon pays. »
Oh là là.
Donc, je pense que on a parlé d'un sujet dur, la persécution, mais il y a un message d'espoir aussi. Et pour moi, les chrétiens indiens sont très inspirants sur comment ils restent attachés à leur foi et comment ils veulent vraiment aider, se bénir les uns les autres, faire du bien à la communauté.
Pour ce mot de conclusion et surtout d'en savoir un peu plus sur ce qu'on peut faire particulièrement.
Exactement, je suis intéressé, je suis touché par ce que j'entends ce matin. Comment agir concrètement?
Alors, la première chose, si vous voulez agir, il faut que vous soyez informé de la situation. On ne va rien faire si on ne sait pas ce qui se passe. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film pour vous rendre compte un peu de la situation en Inde. Vous pouvez aller sur le site de notre ONG Portes Ouvertes, donc portesouvertes@.fr. Vous retrouverez les actualités des chrétiens persécutés. Vous pouvez vous abonner à notre magazine. Et pour ceux qui l'ont à cœur, vous pouvez donner pour les projets, par exemple, dont j'ai parlé. Ce que je peux vous encourager, c'est à ne pas regarder les chrétiens persécutés comme des victimes. Les chrétiens persécutés font partie de la solution et sont des gens qui ont des choses à nous enseigner. Et je pense que c'est aussi, d'une certaine manière, c'est aussi les honorer que on est dans un pays où il y a la liberté religieuse. Comment est-ce qu'on en profite? Qu'on soit croyant ou non, je pense que quand on regarde ce qui se passe dans les pays de l'index de persécution des chrétiens, on se rend compte à quel point c'est une chance. Et je pense que c'est quelque chose qui nous oblige. Et on a des leçons à prendre des chrétiens persécutés.
Et vous voulez voir un petit peu ce que la vie de Graham Staines, je vais réussir à le dire, en Inde, puisqu'on en parle depuis plusieurs jours maintenant, le prix de la vérité. On vous encourage à aller voir ce film comme le faisait juste à l'instant Guillaume.
Allez, belle journée à vous.
6h-10h, Positive Morning, avec Innocent et Nathanaël.